J'ai besoin qu'ils m'expliquent. Pas seulement pour moi, pour les familles, pour les enfants.
Un ami de Xavier Dupont de Ligonnès dit sa surprise au micro d'Europe 1 et une certaine forme de soulagement pour pouvoir peut-être enfin comprendre.
L'homme arrêté hier à l'aéroport de Glasgow est-il le père de famille nantais disparu en 2011 et depuis sans doute en cavale? Nous entendrons un habitant de Limay dans les Yvelines où une perquisition a eu lieu cette nuit.
Ça fait 30 ans qu'on se connaît. On était à son mariage en Écosse.
C'est aberrant.
Dans l'actualité également, les éleveurs de la région de Rouen qui veulent un feu vert pour pouvoir de nouveau vendre leur lait. Ça traîne, alors ils s'en sont pris à la préfecture hier soir.
C'est ce qu'on fait tous les jours depuis 2 semaines. On jette notre lait. Et là, on en a marre.
Et puis le journal des sports avec la France a une petite victoire de la qualification pour l'Euro 2020 grâce à son succès 1-0 hier en Islande.
Bon réveil à toutes et à tous. Excellent début de journée.
Europe 1.
8 années de cavale et peut-être la fin d'une affaire criminelle hors norme. Le quintuple meurtre de la famille Dupont de Ligonnès, la mère et les 4 enfants découverts morts au printemps 2011 à Nantes. Un homme a été donc arrêté hier à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Ses empreintes digitales correspondent à celles du père Xavier Dupont de Ligonnès. Alors comment cette traque a trouvé peut-être son épilogue? Les informations de Chloé Triomphe.
C'est par une information venue d'Écosse que ce dénouement a pu se produire, une dénonciation d'un proche qui pourrait être la nouvelle femme de Xavier Dupont de Ligonnès avec qui il aurait refait sa vie. Une information à mettre encore au conditionnel ce matin, mais ce qui est certain, c'est que ce sont bien les policiers écossais qui ont eu le tuyau et qui ont alerté les enquêteurs français hier d'un possible voyage du fugitif prévu entre Paris et Glasgow. Information transmise trop tard pour l'intercepter sur le sol français au départ de l'avion en partance de Roissy, ce qui explique que le suspect ait finalement été intercepté à son arrivée en Écosse. Les policiers sur place ont donc procédé à un contrôle et vérifié les empreintes digitales qui correspondent bien à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais là encore, il faut rester prudent, indique le procureur de Nantes, tant que l'ADN n'a pas définitivement confirmé son identité. Enfin, concernant le passeport avec lequel voyageait le fugitif, il s'agissait d'une autre identité, celle d'un homme domicilié dans les Yvelines sous le nom de Guy Joao, lequel avait déclaré le vol de son passeport en 2014, les policiers français procédaient dès cette nuit à une perquisition au domicile correspondant à ce nom.
Et Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Chloé nous le disait à l'instant, cet homme arrêté à Glasgow portait un passeport au nom de Guy Joao, un nom de consonance portugaise.
Et c'est un homme qui réside à Limay, dans les Yvelines. C'est là qu'on vous retrouve, Jean-Gabriel Bourgeois. Vous êtes sur place pour Europe 1 en direct. Limay, où a donc eu lieu cette nuit une perquisition?
Effectivement, je me trouve dans ce quartier pavillonnaire de Limay, devant cette maison à un étage aux volets blancs fermés, tout comme le portail. Un gazon bien entretenu, pas de nom sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette. C'est là que les enquêteurs ont perquisitionné une partie de la nuit. Une voiture de police est d'ailleurs toujours présente en ce moment devant cette maison qui appartient à Guy Joao. C'est le nom qui figure sur le passeport de l'homme arrêté hier à Glasgow. J'ai pu discuter dans la soirée avec les voisins les plus proches. Et pour Jacques, il n'y a pas de doute, impossible que Guy, son voisin et ami depuis 30 ans, soit Xavier Dupont de Ligonnès.
Jeudi soir, il était là, on a mangé ensemble tout seul puisqu'il partait le vendredi matin. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, on était à son mariage en Écosse, c'est aberrant. Même avec de la chirurgie esthétique, c'est pas possible. Ils ont pris l'ADN là, et donc ils vont avoir apparemment assez rapidement les résultats. Là, ils vont s'apercevoir de la boulette, c'est pas possible.
L'homme qui vit ici est un retraité, marié depuis 2 ans avec une Écossaise. Ils font régulièrement des allers-retours entre la France et l'Écosse, m'a raconté ce voisin. Cette arrestation est une méprise, selon lui.
Jean-Gabriel Bourgeois, envoyé spécial d'Europe 1 à Limay, dans les Yvelines.
On est donc ce matin en plein questionnement, vous l'avez parfaitement compris. S'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès, comme semblent l'attester les empreintes digitales relevées sur cet homme arrêté à Glasgow, c'est une énorme surprise, bien sûr, y compris pour ceux qui le connaissaient personnellement.
À l'image de Bruno de Stabenrath, lui et Xavier Dupont de Ligonnès se sont rencontrés au collège Saint-Exupéry en 1976. Depuis la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès en 2011, Bruno de Stabenrath a toujours été persuadé qu'il était vivant, comme il l'a raconté à Johanna Chabas.
Je savais qu'il était vivant, quoi. J'en étais sûr. Quoi. Je suis soulagé, parce qu'on a besoin de savoir pourquoi un garçon qui, a priori, était bien né, qui avait toutes les qualités nécessaires pour réussir sa vie, en est arrivé à commettre ses crimes, quoi. Tuer son épouse et ses 4 enfants, ce qui est horrible. Je pense qu'avant de savoir sa cavale, c'est de comprendre comment il a dérivé pendant... la dernière décennie, quoi, à partir des années 2000, comment il a dérivé. Et puis ce qui va être intéressant aussi, c'est de savoir comment il a organisé sa fuite. Et à mon avis, je pense qu'il va parler parce que il va comprendre qu'il a tué, qu'il a fait des crimes horribles, quoi. Donc, il va assumer tout ce qu'il a fait, quoi, jusqu'au bout. Donc ça, j'ai besoin qu'il m'explique. Pas seulement pour moi, pour les familles, pour la justice, pour les enfants. Parce que eux n'avaient pas eu droit à la vérité. C'était des super gamins, donc moi, je les ai jamais oubliés, quoi. Et je me suis dit, il faudra leur rendre justice un jour. Ben voilà, on y arrive.
Va-t-il parler, cet homme interpellé à Glasgow, donc à l'aéroport, hier ? Peut-être, sans doute. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas dit un mot. Et je vous rappelle qu'à 7h45, 8h moins le quart, je vais recevoir quelqu'un que vous connaissez parfaitement, puisqu'il opère sur Europe 1 tous les après-midi. C'est Christophe Ondelat, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette affaire Dupont de Ligonnès. Il sera avec moi en studio pour essayer de démêler le vrai du faux dans cette incroyable histoire.
Autre nouvelle tombée dans la soirée, la mise en examen de Thierry Soler, député, ancien du parti Les Républicains. Aujourd'hui, il est à La République En Marche. Ses activités de conseil dans le privé sont considérées comme suspectes par les juges qui soupçonnent de la fraude fiscale, du détournement de fonds publics et du trafic d'influence passif.
La suite de ce journal dans un court instant. Le ras-le-bol, plus que ça même, des éleveurs de la région de Rouen obligés de jeter leur lait depuis deux semaines, depuis l'incendie de l'usine Lubrizol. Ils attendent que la préfecture de Seine-Maritime leur redonne le droit de vendre leur production le plus vite possible.
Europe 1, il est 6h07.
La matinale d'Europe 1, le 6-9. Bernard Poiret, Europe 1.
Retour de l'information avec François Geffrier et Bernard Poiret.
François, nous sommes maintenant 16 jours après l'accident industriel de Lubrizol à Rouen. Et les agriculteurs de la région de Rouen continuent d'en subir les conséquences.
Le ministre de l'Agriculture hier ne les a pas rassurés. Didier Guillaume a laissé entendre que les producteurs laitiers allaient de nouveau pouvoir vendre leur lait. Finalement, rien, aucune levée des restrictions prises par le préfet. Résultat, ils étaient une trentaine hier soir à déverser leur lait devant la préfecture. Reportage de notre envoyé spécial à Rouen, Hélène Terzian.
C'est ce qu'on fait tous les jours depuis deux semaines. On jette notre lait. Et là, on en a marre. On traite, on stocke, on jette. Là, on l'a acheté devant la préfecture pour montrer notre désespoir. C'est plus possible.
Comme Stéphane, une trentaine d'éleveurs déversent des bidons entiers de lait sur les grilles de la préfecture. Désemparés, ils estiment que plus rien n'empêche la consignation du lait.
Les ministres le disent eux-mêmes que ces résultats, ils sont bons. Donc on considère qu'aujourd'hui, on a un produit qui est consommable. Et donc, on ne comprend plus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans la même position ?
Le ministre de l'Agriculture a pourtant laissé entendre que ces restrictions allaient être levées dès hier. Le président de la FNSEA en Normandie, Arnold Puech-Dalissac, dénonce une situation ubuesque.
Le ministre annonce que le préfet va prendre un arrêté pour que la collecte laitière reprenne. On apprend que non, ça va être dans 72 heures qu'on aura une réponse. On a joué le sérieux depuis 15 jours, on a dit aux agriculteurs, non, on ne livre pas, non, on ne commercialise pas. Ça pose de très très grosses contraintes à tout le monde. Et derrière, il n'y a rien qui se passe. C'est pas sérieux.
Les éleveurs laitiers lancent désormais un ultimatum. Si la levée des restrictions n'a pas lieu avant lundi, ils renouvelleront leurs actions. Rouen, Hélène Terzian, Europe 1.
Les combats continuent dans le nord de la Syrie. Les forces turques bombardent des cibles kurdes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se dit déterminé à poursuivre l'assaut et ce en dépit des avertissements venus de Washington. Depuis le début des frappes, il y a trois jours, 54 combattants kurdes ont été tués, mais aussi 17 civils. Selon l'ONU, 100 000 personnes ont fui leur foyer.
Avant de passer aux informations sportives, une petite parenthèse enfantine avec ce conte du 19e siècle devenu un dessin animé très célèbre de Walt Disney.
Sans compter les nombreuses adaptations au théâtre et à la télévision, et désormais Pinocchio devient un spectacle musical. Il est à l'affiche du Théâtre de Paris à partir de ce soir. Pour Europe 1, Thierry Geffrotin a assisté à la toute dernière répétition.
L'histoire commence comme tous les contes de fées. Il était une fois.
Il était une fois un morceau de bois. Ainsi commence l'histoire de Pinocchio, ou plutôt, comme le dit avec l'accent italien le directeur du cirque,
Pinocchio.
L'histoire de Pinocchio qui devient donc un spectacle musical.
Moi, je suis l'enfant roi, je suis tout en bois, et c'est bien comme ça.
L'histoire, vous la connaissez, évidemment. Ah, vous avez peut-être oublié les détails. Guillaume Bouchède, le metteur en scène, va vous rafraîchir la mémoire.
C'est un espèce de parcours initiatique, c'est-à-dire qu'il va rencontrer toute une galerie de personnages. Alors il va rencontrer effectivement dans la forêt un renard et un chat qui vont essayer de le détourner du droit chemin. Ils vont d'ailleurs y arriver. Derrière, il va être engagé dans un cirque pour faire le pantin. Il va voler des bonbons à la marchande, la police va le poursuivre. Puis ensuite, il va essayer d'aller retrouver son père Geppetto, malheureusement avalé par la baleine.
On a même la baleine.
On a même la baleine.
Pinocchio, c'est un vrai spectacle familial qui devrait plaire aux petits et aux plus grands qu'on appelle les parents.
Thierry Geffrotin pour ce spectacle Pinocchio, c'est tous les samedis à 14h ainsi que pendant les vacances scolaires.
Et à 6h12, on parle sport avec vous François Geffrier.
François, plus qu'une victoire exactement, et il serait qualifié pour l'Euro de football. Je parle des Bleus bien sûr qui, comme on dit, ont fait le travail, mais juste ça, hein, hier soir contre l'Islande.
Victoire 1-0, pénalty obtenu par Antoine Griezmann et marqué par Olivier Giroud, c'est son 37e but en équipe de France. Alors, gagner 1-0, certes à l'extérieur, mais en l'occurrence à Reykjavik, capitale d'un pays de 320 000 habitants, quand on est l'équipe de France, eh bien pour Alain Roche, consultant football d'Europe 1, c'est très insuffisant.
C'est insuffisant pour un champion du monde. J'attends toujours davantage de cette équipe-là, surtout face à une équipe islandaise sans aucun talent. Ils ont 6 points d'avance maintenant sur l'Islande, donc c'est quasiment une finale avec la Turquie. Un point même pour ces deux équipes leur assurera la qualification.
Alain Roche au micro Europe 1 de Lionel Rousseau.
Alors les Bleus ont-ils fait le service minimum ? Bah pas du tout, selon le défenseur Benjamin Pavard.
Il est au micro européen de Cyril Lamorinerie. Et pour Pavard, il y a eu match, il y a même eu combat.
On s'attendait à un match d'hommes. On a répondu présent, de la première jusqu'à la dernière minute. Il ne fallait pas s'agacer. Et on savait qu'en jouant notre football, en les faisant courir, ils allaient perdre un peu d'énergie. Voilà, on a marqué ce but. Vers la fin, on aurait pu... On a marqué le deuxième but, mais c'est pas grave, là, on va bien récupérer et se préparer pour la Turquie qui va vite arriver lundi, ce sera un match déterminant.
Benjamin Pavard qui a en tête le prochain match, effectivement, c'est la Turquie lundi soir, une sorte de finale, puisque ce sont les deux équipes à égalité de points en tête de ce groupe H. Hier soir, la Turquie a battu l'Albanie 1-0, l'Andorre a vaincu l'Albanie. Je me suis trompé dans les résultats, mais je vous donnerai les bons résultats tout à l'heure.
D'accord.
Notez déjà qu'Europe 1 sera en émission spéciale lundi soir pour ce match France-Turquie au Stade de France.
Fallait pas s'agacé, a dit Benjamin Pavard. J'adore cette expression. Mais enfin, contre les Turcs, il faudra faire un peu plus que pas s'agacer. N'oublions pas la Coupe du Monde de rugby, même si le 15 tricolore ne joue pas pour cause de typhon.
Exactement. Match annulé à cause de ce typhon Agibis. On ne verra pas de ce matin France-Angleterre. Les deux nations étaient de toute façon déjà qualifiées pour les quarts de finale. Les Bleus sont partis dans le sud du pays, loin de la tempête. On pourrait se dire que les Français sont contents de leur sort. Finalement, pas tant que ça, comme nous l'explique l'envoyé spécial d'Europe 1 au Japon, Simon Rubin.
Dans l'entourage du 15 de France, on n'en fait pas vraiment mystère. On aurait préféré jouer ce match contre l'Angleterre. Au moins, on aurait gardé le rythme, reconnaît-on en interne. Avec l'annulation, les Bleus doivent patienter une période de 2 semaines sans jouer la moindre rencontre avant le quart de finale. C'est très long et même dangereux. Les joueurs peuvent s'endormir, oublier un peu la pression et la tension de la compétition. Pour tuer le temps, le staff essaie de varier un peu les séances d'entraînement. Demain, par exemple, tout le monde à la piscine, histoire de casser la routine. Les Bleus qui en profitent aussi pour se couper totalement des médias. L'intendance du 15 de France, elle, doit parallèlement gérer les problèmes d'hôtel, notamment des proches, puisqu'initialement les Bleus devaient être à Tokyo. Ça, c'est pour le programme. Alors bien sûr, ce changement de calendrier permet aux Français de se reposer, mais personne ne s'en satisfait, car avec 3 matchs joués seulement, les Bleus sont conscients de ne pas s'être assez rodés en vue du quart de finale dans 8 jours. Tokyo, Simon Rubin, Europe 1.
À suivre aujourd'hui, Irlande, Samoa à 12h45. Incertitude sur le match Japon-Écosse qui doit avoir lieu demain et qui pourrait être annulé, ce qui qualifierait le Japon pays hôte et éliminerait l'Écosse.
Et on a trouvé le bon résultat.
Exactement. Andorre, Moldavie, c'est l'Andorre qui gagne 1-0. Puis Turquie, Albanie, Turquie qui gagne 1-0.
Voilà, c'était très complet. C'était le premier journal de la tranche, le 6h, présenté par François Geffrier qui revient dans 3 quarts d'heure exactement.